Merci beaucoup Timothée, toute l'équipe Louange pour ce dernier moment qu'on a pu passer ensemble, et Saint Jean-Marc aussi qui nous a introduits dans ce culte. Nous avons l'habitude effectivement, lors de nos cultes, de passer un moment, et c'est maintenant, où nous méditons autour d'une pensée, d'un thème ou d'un texte de la Bible. Et aujourd'hui, vous le savez, nous avons comme thème une question, celle qui était notée sur les invitations que nous avons distribuées pour ce culte de l'amitié. A-t-on besoin de Dieu pour être quelqu'un de bien? Une grande question. On pourrait d'ailleurs reformuler la question, mais peut-être imprécise en l'état. Est-il nécessaire de croire en Dieu pour se comporter de façon moralement bonne? Ou encore, est-ce que Dieu peut faire de nous des bonnes personnes, des personnes meilleures? Et je précise tout de suite que je vais m'adresser à vous ce matin dans une perspective chrétienne, d'un point de vue chrétien, avec le Dieu de la Bible comme référence, un Dieu qui s'est révélé à nous de façon particulière dans la personne de Jésus-Christ. Cela dit, dans la réflexion que je vais vous partager, nous intégrerons des remises en question de la part de non-croyants également, de la part de la psychologie et des remises en question aussi qui proviennent de la Bible. Et on pourrait découper la question en fait en deux sous-questions. Est-ce qu'on a besoin de Dieu pour définir ce qui est bien? Et ensuite, est-ce qu'on a besoin de Dieu pour faire le bien? Les deux questions étant bien évidemment liées l'une avec l'autre. Je me souviens d'une question qu'un ami m'avait posée lorsque j'étais à la faculté de mathématiques à Mulhouse. Et là, vous avez la photo un petit peu du campus. Et il m'avait posé cette question: est-ce que vous, les chrétiens, vous êtes meilleurs que les autres? Est-ce que vous pensez que vous êtes meilleurs que les autres, vous, les chrétiens? Et cette question, je vous avoue, ne m'a pas mise à l'aise. Mais j'ai ressenti un petit malaise. Je me suis dit, qu'est-ce que je peux répondre à ça? Et puis je me suis dit, mais est-ce que derrière ta question, est-ce que tu veux dire, est-ce que tu penses que je m'estime moi meilleur que toi? Et il a dit oui, c'est ça que j'avais en tête. Alors je vous dis d'emblée ce matin, les chrétiens ne sont pas meilleurs que les autres. Je ne pense pas être meilleur que vous. Peut-être que vous vous dites, mais qui sont ces chrétiens, parce que vous en connaissez autour de vous, qui veulent nous éduquer? Ou peut-être vous êtes en colère parce que vous connaissez des chrétiens qui ont fait des choses mauvaises, des choses qui vous ont blessé. Malheureusement, pas besoin d'aller très loin pour en croiser. J'ai fait des choses mauvaises dans ma vie, des choses que je regrette. Et le pire, c'est même que si je veux être bon, il m'arrive encore de décevoir. Et même de décevoir ceux que j'aime le plus. Sinon, dans l'histoire même des chrétiens, on peut penser aux croisades, aux abus des prêtres, à des comportements hypocrites dans l'Église. On peut être en colère, car c'est révoltant de voir des personnes qui ont de hauts standards moraux commettre les actions les plus basses. Je vais vous citer un auteur vieux de 2000 ans qui a dit ceci à propos de l'hypocrisie religieuse. « Tu es convaincu d'être le conducteur des aveugles, la lumière de ceux qui sont dans les ténèbres, l'éducateur des ignorants, le maître des enfants, parce que tu possèdes dans la loi l'expression de la connaissance et de la vérité. Toi donc qui enseignes les autres, tu ne t'enseignes pas toi-même. Toi qui prêches de ne pas voler, tu voles. » C'est celui qui a dit cela et qui dénonce ainsi l'arrogance religieuse, l'hypocrisie religieuse. C'est l'apôtre Paul, un des premiers disciples de Jésus. Alors si vous êtes contre l'hypocrisie, qu'elle soit religieuse ou non, sachez que Jésus, l'apôtre Paul et la Bible sont de votre côté. Est-ce qu'on a besoin de Dieu pour savoir ce qui est bien? On m'a déjà dit, pas besoin de Dieu, pas besoin d'être croyant pour dire que tuer c'est mal et que aider c'est bien. Les chrétiens ne sont pas les seuls, bien sûr, à accéder à la morale. Nous sommes tous plus ou moins doués d'empathie, et c'est ce qui nous permet de construire une éthique. On connaît aussi cette fameuse phrase « Traite les autres comme tu voudrais être traité ». C'est une phrase qu'on a appelée souvent la règle d'or et qui est présente dans de nombreuses religions ou courants philosophiques. Est-ce qu'on n'est pas tous capables, au final, de savoir qu'il faut faire aux autres ce qu'on voudrait qu'ils nous fassent? Pourquoi est-ce qu'on aurait besoin de Dieu pour cela? Sam Harris, qui est athée, a essayé et voulu tenter de fonder une morale en dehors de Dieu sur la science. Et il dit ceci. La morale doit être en lien avec le bien-être des créatures conscientes. S'il y a des moyens plus ou moins efficaces de chercher la joie et d'éviter la misère dans ce monde, alors il y a de bonnes et de mauvaises réponses aux questions d'ordre moral. Le bien sans la notion de Dieu, c'est donc de favoriser le bien-être d'un maximum d'individus. Et les autres, alors. La Bible dit que Dieu nous a donné à tous un sens moral. Que l'on soit croyant ou non, la Bible dit que nous avons été créés à l'image de Dieu. Et cela implique un certain sens moral. Ça nous émerveille tout autant que ça nous responsabilise. Le grand philosophe Emmanuel Kant, sa tombe à Königsberg, il a gravé sur sa tombe, je ne sais pas si c'était une de ses volontés personnelles, ce beau texte que je vous lis maintenant. « Deux choses remplissent mon âme avec émerveillement et une admiration nouvelle et croissante, surtout à penser à elles, le ciel étoilé au-dessus de moi et la loi morale en moi. » On a donc tous un sens moral et peut-être s'en émerveiller. On a une certaine connaissance du bien et du mal. Des fois, elle peut être déformée, mais on en a quand même une certaine connaissance. Mais la question, c'est est-ce qu'on arrive à respecter cette loi morale en nous, ces standards moraux qu'on se fixe, le bien qu'on vise et qu'on aimerait tant faire? Laissez-moi vous raconter une petite histoire. Histoire drôle, hein, c'est pas vraiment une histoire vraie. C'est l'histoire d'une petite fille qui rêve de recevoir une Nintendo Switch. Alors elle demande à ses parents, et ses parents lui disent non, et du coup elle se met à prier en disant « Jésus, voilà le deal. Si je suis une bonne personne, si je suis sage comme tu le veux pendant une semaine, donne-moi cette console que je veux tellement. » Et malheureusement, elle n'y arrive pas. Dans la semaine, elle s'est disputée plusieurs fois avec son frère. Alors elle prie une deuxième fois. Elle dit « Jésus, si aujourd'hui je suis quelqu'un de bien, donne-moi ma console. » Et dans la journée, elle se fâche et elle désobéit à ses parents. Alors dans la nuit, elle va dans une église près de chez elle et elle prend une petite statuette de Marie qu'elle met sous son manteau et qu'elle ramène chez elle. Elle la cache sous le lit et là, elle se remet une troisième fois à prier et elle dit « Jésus, si tu veux revoir ta maman, donne-moi la Nintendo Switch. » Histoire simpliste, mais leçon profonde. Est-ce qu'au final, on ne serait pas tous incapables de tenir nos standards moraux? Une expérience de psychologie sociale a été menée après la Seconde Guerre mondiale. Peut-être que vous la connaissez déjà, il s'agit de l'expérience de Milgram, et je vais prendre quelques instants maintenant pour vous expliquer un petit peu cette expérience qui a été menée. On demande à des personnes au hasard dans la population si elles sont d'accord de participer à une expérience sur la mémoire pour 4$. Plusieurs acceptent, ils se retrouvent dans un laboratoire avec à leur côté un scientifique en blouse blanche, et après un tirage au sort, les deux cobayes, qu'on peut appeler la personne A, la personne B, se retrouvent de part et d'autre d'une vitre, et le scientifique explique que le participant A dû mémoriser une liste de mots et doit maintenant la réciter sans erreur. À chaque erreur, le participant B reçoit comme consigne de lui envoyer une décharge électrique dont l'intensité va augmenter à chaque fois. En réalité, derrière la vitre se trouve un acteur qui mime des douleurs suite au choc électrique. Au début, c'est de petits cris, de petites contractions musculaires, mais au fur et à mesure que l'expérience avance, L'acteur se met à crier de plus en plus fort jusqu'à des hurlements de douleur et en vient même à supplier d'arrêter l'expérience. Malgré cela, sous les ordres du scientifique en blouse blanche, la plupart des êtres humains vont jusqu'à donner un choc électrique mortel. Milgram et son équipe pensaient qu'environ 10% iraient jusqu'à un choc électrique mortel, mais les résultats de l'expérience montrent que 65% des êtres humains obéissent totalement aux ordres jusqu'à donner un choc électrique mortel. Ils ne le font pas de bon cœur, mais ils le font quand même. Des fois, ils se retournent vers le scientifique, puis le scientifique demande au scientifique, vous prenez la responsabilité, et le scientifique dit, oui, je prends la responsabilité, et alors ils y vont. 100% atteignent les 285 volts, c'est-à-dire plus que si on mettait les deux doigts dans une prise, en fait, chez nous à la maison. Conclusion de Stanley Milgram. Les résultats que j'ai observés en laboratoire sont perturbants. Ils soulèvent la possibilité que sous la direction d'une autorité malveillante, on ne peut pas compter sur la nature humaine pour protéger les hommes de la brutalité et des traitements inhumains. Pourquoi les personnes ont continué l'expérience malgré les supplications? Alors peut-être que vous vous dites que cette expérience a été faite dans un contexte particulier, on était au lendemain de la Seconde Guerre mondiale, on était dans un climat un petit peu tendu encore et de guerre. C'est ce qu'ont pensé d'autres scientifiques qui ont reproduit l'expérience dans différents pays du monde à différents moments. Et comme vous le voyez là sur le tableau, les résultats sont sensiblement les mêmes. C'est en Espagne, en 1980, je ne sais pas pourquoi, qu'il y a eu le taux le plus faible pour le choc électrique mortel. Mais ce taux était tout de même de 50%. Une personne sur deux allait jusqu'à l'obéissance totale à l'autorité. On a essayé de voir s'il n'y avait pas de différence entre les hommes et les femmes, ou bien s'il y avait une différence en fonction du niveau d'éducation, ou en fonction de l'âge, ou encore selon les cultures. Et les résultats montrent finalement assez peu de différence dans les cas que je viens de vous citer. Conclusion. Logique, nous, ici présents dans cette salle, on aurait très probablement les mêmes résultats. Cette expérience a même été vécue à la télévision. Cela s'appelait le jeu de la mort sur France 2 en 2010. Et les résultats étaient encore pires, d'ailleurs, que ceux de Milgram. Malgré tout ça, notre réaction normale est de se dire « Tout le monde, oui, mais pas moi. Pas moi, moi je ne serais pas allé jusque-là. » On a quand même une vision plus optimiste de soi. J'ai lu que 85% des conducteurs automobiles pensent qu'ils conduisent mieux que la moyenne. 80% mieux que la moyenne, c'est pas possible. On se surestime. Imaginez qu'en sortant de l'église, vous découvriez votre portrait affiché en grand sur la tour de l'Europe. Et qu'à côté, il y ait écrit tout ce que vous avez dit, tout ce que vous avez fait dans votre vie. Et que cela soit exposé à la vue de tous. Qui d'entre nous aurait honte? Moi, j'aurais honte. On n'a pas besoin d'être sous l'autorité d'ailleurs de quelqu'un pour faillir à faire le bien. Échouer à faire le bien, c'est une pratique malheureusement courante dans nos vies. Cette expérience de Milgram soulève trois questions. Quelle définition du bien? Comment s'affranchir du pouvoir des autorités malveillantes? Et pourquoi n'atteignons-nous pas nos propres standards moraux? Et je vous propose de répondre à ces trois questions à travers la Bible. Pourquoi la Bible? Parce que je suis persuadé qu'elle contient les meilleures réponses qu'on puisse trouver. Quelle définition du bien? Est-ce qu'on peut dire que les 35% des gens qui abandonnent l'expérience avant la fin sont de bonnes personnes et les autres de mauvaises personnes? Est-ce que tout le monde est mauvais? Est-ce que tout le monde est bon? Où est-ce qu'on met la limite? Qui est-ce qu'on prend comme référence? Imaginez-vous si les 35 personnes qui ne vont pas jusqu'au bout se disaient « Ben moi je suis donc quelqu'un de bien, mais elles ont quand même donné une décharge de 285 volts. » Imaginez cela. je suis quelqu'un de bien, quelqu'un qui dirait ça. Ça serait terrible de se dire qu'on est quelqu'un de bien et qu'on a été capable de faire du mal ainsi à un de nos prochains. Très probablement, on sortira du problème quand on arrêtera de se comparer à ceux qui sont pires et qu'on se comparera à ceux qui sont mieux que nous. C'est l'histoire d'un pasteur qui voyage en avion et à côté de lui, il y a une dame et puis il commence à discuter l'un avec l'autre. Et puis voilà, le pasteur lui pose la question, qu'est-ce que vous faites dans la vie, etc. Puis au bout de quelques minutes, la dame lui retourne la question et au moment où il dit « je suis pasteur », tout de suite, la dame a dit « ah, je n'ai pas fait de mal, je suis... oui, ma vie n'est pas parfaite peut-être, mais je suis tout de même pas comme Hitler ou Staline. » Et le pasteur lui a répondu « mais pourquoi vous comparez-vous à Hitler ou Staline et pas à Mère Teresa ou l'abbé Pierre ?» À qui doit-on se comparer? On doit se comparer à un modèle parfait. Et qui est parfaitement bon? Seulement Dieu. Seulement Dieu est parfaitement bon. Vous savez, on parle des fois un petit peu rapidement du bon Dieu, mais ça veut dire quoi, bon? Voilà comment la Bible définit la bonté de Dieu. C'est Jésus qui parle et qui dit la chose suivante. Vous avez appris qu'il a été dit, tu aimeras ton prochain et tu détesteras ton ennemi. Mais moi je vous dis, aimez vos ennemis, bénissez ceux qui vous maudissent, faites du bien à ceux qui vous détestent, et priez pour ceux qui vous persécutent, afin d'être les fils de votre Père Céleste. En effet, il fait lever son soleil sur les méchants et sur les bons, et il fait pleuvoir sur les justes et sur les injustes. Si vous aimez ceux qui vous aiment, quelle récompense méritez-vous? Soyez donc parfaits comme votre Père Céleste est parfait. Dieu ne limite pas sa bonté à ceux qui méritent sa bonté. Il aime ceux qui le haïssent. Il permet à tous de manger grâce au soleil et à la pluie qui permet ensuite de cultiver, de se nourrir. Et Jésus nous invite à faire de même. Jésus nous invite à ce que notre amour soit sans limite, qu'on n'aime pas seulement ceux qui nous aiment, mais tous. C'est ce que Jésus a enseigné, mais l'a-t-il mis en pratique? Ce serait facile de donner des leçons de morale très élevées, puis de ne pas les vivre. Ça serait du vent. Voilà comment l'apôtre Paul décrit l'attitude de Jésus. Jésus-Christ, qui dès l'origine était de condition divine, ne chercha pas à profiter de l'égalité avec Dieu, mais il s'est dépouillé lui-même et il a pris la condition du serviteur. Il se rendit semblable aux hommes en tout point, et tout en lui montrait qu'il était bien un homme. Il s'abaissa lui-même en devenant obéissant jusqu'à la mort, lui, la mort sur la croix. C'est ça la bonté, se mettre au service des autres, au point de se donner aux autres, d'accepter d'être abaissé. C'est renversant, celui qui est le plus haut s'abaisse, celui qui est tout puissant accepte de devenir faible, celui qui n'a pas fait le mal prend le mal sur lui à la croix. Et quand je dis que Jésus n'a pas fait le mal, je ne suis pas le seul à le dire. Et ce n'est pas seulement non plus la Bible qui le dit, les musulmans aussi pensent que Jésus est sans faute. Les chefs juifs n'ont trouvé aucune raison valable pour accuser Jésus et le condamner à mort. Hérode et Pilate non plus. La foule non plus. Un des criminels à côté de Jésus qui était crucifié en même temps que lui a dit « Pour nous, la punition est juste, mais pas pour Jésus. » Jésus a vécu une vie dans la pureté et l'amour. Il aurait pu de nombreuses fois haïr, critiquer, mentir, mais il ne l'a jamais fait. Il n'a jamais cédé au mal. Et c'est cet exemple qu'il nous faudrait prendre comme référence morale. C'est l'exemple de bonté, d'amour le plus pur et le plus beau que l'on puisse imaginer. Et si un jour on est dans l'expérience de mille grammes, on se demandait qu'est-ce que ferait un autre à ma place, on devrait se demander que ferait Jésus à ma place. Deuxième question, comment peut-on s'affranchir des autorités malveillantes? Milgram a dit, si dans cette étude, un expérimentateur anonyme peut réussir à ordonner à un adulte de soumettre un homme de 50 ans et lui infliger de douloureux chocs électriques malgré ses protestations, on ne peut qu'imaginer ce qu'un gouvernement avec son autorité et son prestige bien plus grand peut ordonner à ses sujets. Et c'est ainsi qu'il expliquera le scandale et l'horreur de la Seconde Guerre mondiale. Aujourd'hui encore, on est entouré d'autorités qui ne sont pas toutes bienveillantes. Comment s'en affranchir? Alors on pourrait dire qu'une solution, c'est l'anarchie, on supprime toute forme d'autorité. Mais au fond, nous, on sait bien que les règles et les lois sont quand même utiles. D'ailleurs, la Bible ne supprime pas le principe des autorités. Mais la solution, c'est d'avoir une autorité supérieure encore aux autorités en place. Et donc se soumettre encore plus à cette autorité supérieure. Et cette autorité supérieure, c'est Dieu lui-même, lui qui est parfaitement bon. Et je vous cite encore une fois Jésus. Je vous le dis, à vous qui êtes mes amis, ne redoutez pas ceux qui tuent le corps et qui, après cela, ne peuvent rien faire de plus. Je vais vous montrer qui vous devez redouter. Redoutez celui qui, après avoir tué, a le pouvoir de jeter en enfer. Lui, je vous le dis, c'est lui que vous devez redouter. Ne vendons pas 5 moineaux pour 2 petites pièces, cependant aucun d'entre eux n'est oublié devant Dieu. Mais vos cheveux sont tous comptés. N'ayez donc pas peur, vous valez plus, beaucoup plus que des moineaux. Voilà la solution de Jésus à l'expérience de vie grave. Les autorités malveillantes, il faut arrêter de les craindre. A-t-on conscience que Dieu est bien plus puissant que les autorités en place? Si on a confiance en Dieu, on aura la force alors de dire non aux autorités malveillantes. Si Dieu a leur autorité supérieure, alors on aura la force de résister. Il y a 2 aspects dans ce passage qui est affiché. Le fait de craindre Dieu, mais aussi le fait qu'il prend soin de nous, il prend soin des oiseaux, il prend bien plus soin encore des humains. Mais il est également écrit que Dieu a le pouvoir de jeter en enfer. Ça peut être choquant aujourd'hui de parler d'enfer, c'est même tabou. Vous faire remarquer simplement que c'est écrit que Dieu a le pouvoir de jeter en enfer, pas qu'il a le désir. Ce n'est pas le désir de Dieu, nous envoyer en enfer. En réalité, il a fait tout ce qui est nécessaire pour qu'on aille en enfer. Et il l'a fait à travers Jésus. Peut-être que vous vous dites, ok, je ne suis pas parfait, mais l'enfer serait quand même une punition disproportionnée. Alors parfois, la sentence est aussi proportionnelle à la personne qui est offensée. Si vous insultez votre voisin, cela est condamnable par la loi, mais vous avez peu de chances en réalité et en pratique d'être réellement inquiété. Je ne vous conseille néanmoins pas de le faire. Si maintenant vous insultez un policier, c'est autre chose, il est représentant de l'ordre, etc., ça peut aller plus loin au niveau des peines aussi. Si vous insultez un homme politique élu, et si vous insultez alors maintenant le chef de l'État, il paraît que dans certains pays, si vous insultez le chef de l'État, vous pouvez être passible de la peine de mort dans les pays dans lesquels elle existe encore. Imaginez alors ce que mérite le fait d'insulter Dieu, de refuser son autorité, de lui tourner le dos. 3e et dernière question, comment atteindre nos standards moraux? Pourquoi est-ce qu'on ne fait pas le bien qu'on voudrait faire et qu'on fait le mal qu'on ne veut pas, du moins parfois? On pourrait penser que la Bible pose finalement plus de problèmes qu'elle n'en résout, puisque ces exigences morales sont encore plus élevées que les nôtres. Il faut être parfait comme Dieu. Alors au final, on va encore moins atteindre nos standards moraux, encore moins réussir à être quelqu'un de bien. Et on pourrait croire que ça va nous mener au découragement, à la déprime et à la culpabilité. Et ça pourrait effectivement nous conduire à la culpabilité si face à nos faiblesses, la réponse de Jésus était « Travaille plus dur, fais plus d'efforts, sois plus moral, fais plus le bien, sois plus discipliné, respecte plus les règles. » Mais aussi surprenant que cela puisse paraître, Jésus ne nous demande pas en premier lieu de nous battre, mais il nous demande de capituler. Jésus ne nous demande pas de prouver qu'on est fort, mais d'accepter qu'on est faible. En effet, alors que nous étions encore sans force, Christ est mort pour des pécheurs au moment fixé. À peine mourrait-on pour un juste, peut-être accepterait-on de mourir pour quelqu'un de bien. Mais voici comment Dieu prouve son amour envers nous. Alors que nous étions encore des pécheurs, Christ est mort pour nous. L'exigence morale de la Bible serait décourageante si on devait d'abord être bon pour mériter l'amour de Dieu. Mais ce qui se passe dans la pensée chrétienne, dans la pensée biblique, c'est l'inverse. Dieu commence par nous aimer. Nous qui sommes mauvais, incapables de faire le bien, ou du moins de faire le bien tout le temps. D'abord, Dieu nous aime, et ensuite, son amour nous pousse à changer d'attitude. On est accueilli comme on est, tel qu'on est auprès de Dieu. Et je trouve ça magnifique parce que le fait que l'on soit pécheur nous rend suffisamment humbles pour vouloir changer, mais le fait qu'on est aimé nous donne suffisamment de courage pour pouvoir changer. Et pour moi, c'est une des grandes forces du message biblique. La Bible nous rend à la fois profondément humbles et profondément plein d'assurance. En même temps, car Dieu nous aime tel que nous sommes. Alors voilà, jusqu'à présent, je vous ai présenté un certain nombre de réflexions qui viennent de la part de non-croyants, qui viennent de la psychologie sociale et de la Bible, mais est-ce qu'on a vraiment répondu à la question ? Est-ce qu'on a besoin de Dieu pour être quelqu'un de bien ? La réponse dépend de ce qu'on entend derrière les mots. À mon avis, si être quelqu'un de bien consiste à faire ce qu'on attend de nous, à faire comme les autres, à faire de notre mieux, aussi bien que notre voisin, alors non, nous n'avons pas besoin de Dieu pour cela. Mais oui, on aura besoin de Dieu pour être quelqu'un de bien. Si être quelqu'un de bien, c'est faire ce que Dieu attend de nous, laisser Dieu nous rendre meilleurs, faire aussi bien que Jésus. Comment, maintenant, avoir une certitude que ce qu'on a vu là, ce n'est pas que de la théorie, que la foi chrétienne peut vraiment amener à des changements et que ça marche en pratique. Alors là, on aurait envie tout simplement de prendre tous les chrétiens, de les mettre dans un coin du monde et tous les non-chrétiens, les mettre d'un autre côté et puis peser un petit peu, prendre tout ce qu'ils ont dit, tout ce qu'ils ont fait, tout ce qu'ils ont pensé et comparer. Mais selon moi, ce ne serait pas une bonne façon de comparer les choses. Cette façon ne serait pas adéquate. Pourquoi ? Parce que ce qu'on veut mesurer, ce n'est pas l'état, c'est le changement. Est-ce qu'il y a un changement ? Dit en termes techniques, il ne faudrait pas faire une étude transversale, comparer beaucoup d'individus à un moment donné, mais une étude longitudinale, c'est-à-dire comparer un individu à beaucoup de moments donnés dans sa vie. Si on veut mesurer le changement, c'est comme ça qu'il faut s'y prendre. On est obligé de comparer l'individu à lui-même à différents moments de sa vie. La vie, c'est peut-être un petit peu comme une course. Mais dans une course, c'est beaucoup plus simple. Parce que dans une course, tout le monde part du même départ et arrive au même endroit, l'arrivée. Et dans ça, il est facile de comparer la vitesse des coureurs. Mais dans la vie, ce n'est pas pareil. On ne part pas tous du même départ. On n'a pas tous la même arrivée non plus. Sur la Terre, il n'y a pas deux personnes qui ont reçu la même éducation, les mêmes ressources, la même culture, le même quotient intellectuel, la même force de caractère, etc. On est tous différents, si bien que se comparer serait presque absurde si on ne part pas du même endroit. C'est normal qu'on ne soit pas au même stade. Et donc on ferait mieux de se comparer à soi-même. C'est aussi vrai parce que la foi est un processus. On ne devient pas meilleur du jour au lendemain. L'Église est composée de gens imparfaits qui sont en chemin. Je connais autour de moi de nombreuses personnes, ceci dit, qui ont changé grâce à Dieu. Et aujourd'hui, je vais vous donner un exemple qui m'a particulièrement interpellé. C'est ce jeune homme, Manassé Eric Luwandinwe. C'est quelqu'un de très chaleureux et pourtant il aurait toutes les raisons de ne pas l'être. Pourquoi ? Il vient du Rwanda et il fait partie du peuple Tutsi. Comme vous vous en souvenez, il y a eu un génocide des Tutsi au Rwanda en 1994. Ça date un petit peu maintenant, mais encore aujourd'hui il y a des gens qui en souffrent. Et on a compté 800 000 morts, soit les trois quarts de la population Tutsi. Manassé a vu sa famille et son peuple être quasiment exterminés lorsqu'il avait environ 10 ans. Et à cause de ça, il a grandi avec un seul but, celui de se venger, de ce qui a été fait. Et pourtant, aussi surprenant que cela puisse paraître, dans une conférence chrétienne, il a passé de bons moments avec d'autres Rwandais qui, eux, étaient des Hutus, donc de la tribu qui a massacré sa famille. Quelqu'un lui a demandé comment cela était possible et il a simplement répondu que le jour où il a confié sa vie à Jésus, il a abandonné son désir de vengeance, son désir de meurtre, et Dieu lui a donné la force surprenante de pardonner. Si Manassé s'était comparé au Hutu, il aurait pu se venger et quand même se définir comme étant bon. Mais puisqu'il s'est comparé à Jésus qui a tout pardonné, il a décidé de pardonner lui aussi et de laisser le jugement à Dieu. L'impact de Jésus dans la vie de Manassé continue. Encore aujourd'hui, il a travaillé plusieurs années dans une organisation non gouvernementale, l'UNICEF, pour la protection des enfants. Dans le cadre de son travail, il a dû résister aussi à la corruption. Il a même été menacé par une arme à feu et a décidé de ne pas céder. Il a eu plus confiance en Dieu qu'il n'a eu peur dans les hommes. Et c'est ça qui lui a permis de refuser la corruption. Voilà, j'arrive bientôt au terme de ce que j'avais à vous dire autour de cette question. Peut-être que vous en avez des questions. Peut-être que certains d'entre vous, vous vous dites que cela n'a aucun sens, que la Bible vous énerve. Alors si cela est votre cas, merci déjà d'avoir écouté jusqu'à la fin. Merci d'être là, tout simplement. Si vous pensez que vous n'avez pas besoin de Dieu pour être quelqu'un de bien, alors je me permets de vous lancer un petit défi. Essayez de vivre à la hauteur de vos propres standards moraux et vous pourrez en tirer vos propres conclusions. Mais peut-être que vous avez été intéressé par cet exposé et que vous vous posez des questions. Alors si tel est le cas, je vous signale simplement qu'à la fin du culte, je suis tout à fait disposé et disponible. Je me tiendrai à votre disposition pour échanger avec vous. Ce serait dommage de passer maintenant à autre chose si vous avez des questions. Il y a aussi sur la table du fond un petit carton gardant le contact, si vous le souhaitez. N'hésitez pas à vous en servir. Il y a peut-être parmi nous aussi ce matin des personnes qui sont convaincues que le mal existe, pas simplement en dehors d'eux, mais aussi à l'intérieur d'eux. Si c'est le cas, ne partez pas sans avoir pu en parler et prenez une décision. Pour finir, j'avais juste envie de vous montrer cette illustration. Qui veut du changement ? Et qui veut changer ? Merci à tous.